Maintenant, on va parler de santé. Je vais appeler sur la scène Nelly Morisot-Lazarus et Pierre Bernardo des laboratoires Gilead et monsieur Marc Dubernet de l'AFD. Monsieur Dubernet est-il là? Oui. Tu pourras me lancer les slides, s'il te plaît? Merci.
Nelly, à toi.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc je vais peut-être commencer par nous présenter, puisque ceux qui étaient au congrès l'année dernière nous ont déjà vus, probablement. Nous venons de l'entreprise Gilead Science, qui est partenaire de la CCDOM depuis maintenant plusieurs années. Donc je m'appelle Nelly Morisot-Lazarus et mon collègue Pierre Bernardo m'accompagne. Alors je sais qu'on passe juste avant le café, donc je vous promets qu'on va essayer de faire court, c'est le moment le plus difficile. Donc nous sommes une entreprise pharmaceutique, nous travaillons dans le domaine notamment de la virologie, du VIH, des hépatites, et puis de plus en plus dans le domaine de l'oncologie. Donc pourquoi est-ce que nous venons vous parler aujourd'hui? C'est pour essayer de vous présenter, je pense qu'on peut passer tout de suite aux slides suivantes, le travail que nous faisons depuis plusieurs années avec la CCDOM. Comment nous avons commencé à travailler ensemble et pourquoi est-ce que nous avons décidé de devenir partenaires? C'est parce que depuis plusieurs années, nous travaillons beaucoup, nous constatons et nous travaillons du coup sur le sujet du rôle des élus locaux en santé dans un pays où, vous le savez, beaucoup de stratégies de santé sont nationales. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, après la période de pandémie notamment, ça paraît un peu évident de dire que les élus locaux ont un rôle évidemment très important en santé. Mais c'est le cas sur beaucoup, beaucoup d'aires thérapeutiques. Et on a commencé notre partenariat avec la CCDOM en 2018, après un colloque que nous avions organisé, et dans lequel l'association avait aussi une place importante, sur le VIH, donc le sida et les hépatites, dans les Outre-mer. Et nous avions axé la réflexion sur quel est le rôle des collectivités locales et le rôle des élus locaux dans les stratégies de lutte contre ces épidémies. Le fait est que dans ce domaine, il y a énormément d'exemples qui montrent que les projets locaux ont un impact très positif sur la santé publique au niveau local. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a des stratégies nationales, et en France, elles ont tendance à être plutôt très ambitieuses. Nous, on est une entreprise internationale, parfois on se compare et on sait qu'on a des stratégies nationales qui sont en général ambitieuses et qui fonctionnent bien. Mais on sait aussi qu'au niveau local, on a des questions, on a des épidémiologies qui sont très différentes. Les populations touchées par les maladies ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des risques de contamination divers, en général, pour un virus, par exemple. Le facteur de risque principal n'est pas forcément le même selon qu'on se trouve dans un département ou dans un autre, dans un territoire et dans un autre. Et donc, les stratégies locales ont vocation, finalement, à s'adapter à ça. Je prends l'exemple des hépatites, par exemple. Vous avez des modes de contamination qui vont être très vrais ou très importants dans certains départements de France hexagonale et qui vont être des modes de contamination très marginaux dans les Outre-mer, par exemple. Je pense notamment à des facteurs comme la consommation de drogues injectables. Et on voit que finalement tout ça est très différent. Et donc c'est pour ça que les élus locaux s'engagent finalement et mènent des projets locaux qui ont aussi vocation à s'adapter à la question de l'accès aux soins. Puisque l'un des objectifs bien sûr de toutes les politiques de santé, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir accès aux soins. Et évidemment, il faut avoir une cartographie très fine du territoire pour bien comprendre où est-ce qu'on peut agir pour favoriser ça. Et donc il y a 2 ans, je crois maintenant, nous avons travaillé avec la CCDOM à la création d'un kit, justement, sur l'engagement des élus locaux dans le domaine du VIH et des hépatites, qui à la fois rappelle un certain nombre de faits sur ces pathologies, qui dans certains départements, en particulier des Outre-mer, sont un vrai sujet de santé publique, et puis pour aussi présenter une forme d'ingénierie de projet sur ces sujets, sur lesquels les élus locaux et les collectivités ne travaillent pas seuls, mais avec une multitude d'acteurs qui sont aussi engagés sur le territoire. Et donc nous avions fait se quittent. Et nous avions fait également l'année dernière un certain nombre de vidéos qui expliquaient ceci. Donc l'objectif, ce n'est pas du tout d'expliquer aux élus locaux comment ils peuvent mener des projets, parce que ça, les élus locaux le savent mieux que personne. C'est vraiment de montrer des exemples de bonnes pratiques qui sont reproductibles dans différents endroits, et de montrer aussi quels sont les acteurs avec lesquels on peut parler pour monter ce type de projet. Donc vous avez un exemple, voilà, là, de projets locaux, de kits, d'outils que nous avons fait avec la CCDOM, et je voudrais dire qu'ils sont toujours à disposition. Donc n'hésitez pas surtout à les demander si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Et cette année, je vais laisser la place à mon collègue Pierre. Nous avons fait un petit peu le même genre de kit à l'occasion d'Octobre Rose sur une autre pathologie qui est le cancer du sein. Et donc, nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous présenter cet outil, donc je vais laisser Pierre le faire.
Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Bernardo, je travaille avec Nelly Morizo-Lazarus chez Gilead. Et comme Nelly disait à l'instant, dans la lignée des partenariats des années précédentes, dans la lignée des années précédentes, cette année, on a décidé d'axer notre travail sur le cancer du sein. En partant d'un constat simple, c'est qu'en 2020, et principalement à cause de la crise du Covid, le taux de dépistage du cancer du sein a baissé de 15%. Donc le nombre de cancers du sein est lui resté le même. On compte environ 59 000 nouveaux cas par an, mais la participation au dépistage a baissé. Ce qui est assez paradoxal, parce que la maladie garde cette même gravité. Et le nombre de dépistages a baissé, alors même que le cancer du sein, c'est une maladie de la première importance pour au moins deux raisons. Tout d'abord, son ampleur. Je le disais, il y a 59 000 nouveaux cas par an, et on impute environ 12 000 décès par an à cette maladie, ce qui en fait tout simplement la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Donc c'est une maladie importantissime. Et la deuxième raison, c'est que c'est une maladie qui peut toucher à tous les âges. Certes, 4 cancers du sein sur 5 surviennent après l'âge de 50 ans, mais ça veut aussi dire qu'il y en a 1 sur 5 qui arrive avant, dès l'âge de 25 ans. Et donc pour ces deux raisons, à la fois l'ampleur de cette maladie et puis le fait qu'elle peut toucher à tous les âges de la vie, on a décidé d'axer notre travail sur cette maladie pour l'année 2022. En réalisant 2 guides avec la CCDOM à destination à la fois du grand public, mais aussi des élus. Donc l'idée, ce n'est pas de vous présenter in extenso ces 2 guides que la CCDOM a déjà envoyés à ses adhérents et tient à votre disposition. C'est plutôt de vous dire en 2 mots de quoi ils parlent, pour les résumer rapidement. Le tout premier guide, donc, il fait 6 pages. C'est un document assez synthétique à destination du grand public qui explique tout d'abord ce qu'est la maladie. Il contient les principales informations, les principaux chiffres, des explications cliniques sur comment elle fonctionne. Et surtout, et c'est peut-être ce qui est encore plus intéressant, ce guide passe un message très simple qui est que dans la lutte contre le cancer du sein, qui est une maladie cruciale, qui touche tout le monde, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit jeune, qu'on soit un peu plus vieux, on a tous un rôle à jouer. Et donc ce guide montre par exemple comment on peut se faire dépister le plus rapidement possible, parce qu'on sait, et c'est prouvé scientifiquement, qu'un cancer du sein dépisté tôt est aussi un cancer du sein qu'il est plus facile de soigner, et donc on a plus de chances, de sortir guéri. Donc les moyens de se faire dépister, par exemple, c'est des gestes comme l'autopalpation qu'on peut pratiquer soi-même, mais également la réalisation d'un examen clinique chaque année à partir de l'âge de 25 ans, ou encore à partir de l'âge de 50 ans, la participation au programme de dépistage national organisé. Donc ça, c'est pour le premier guide qui est à votre disposition, et le second, lui, est destiné plus particulièrement aux élus. Alors, comme disait Nelly, ce sont les élus qui savent mieux que quiconque comment agir au niveau local, et les initiatives locales sont celles qui ont le plus d'impact. Donc ce guide qui fait 2 pages contre 6 pour le précédent, c'est un recto verso, lui aussi assez synthétique, recense quelques bonnes pratiques dont les élus peuvent s'emparer pour agir contre le cancer du sein au niveau local. Par exemple, à l'occasion d'Octobre Rose. Octobre Rose, comme vous le savez, c'est un mois de sensibilisation mondiale à la lutte contre le cancer du sein, pendant lequel de nombreux élus financent des associations, mettent à disposition une salle, relayent dans les rues de leur ville sur les affichages municipaux des campagnes de prévention. Donc c'est ce genre d'exemple de bonne pratique que ce guide recense. La CCDOM tient à votre disposition. Et je dirais, le message de ce guide, le message principal de ce guide, il rejoint un peu ce que disait Sylvie Gustave, dit Duflo hier, de l'environnement, à savoir que les élus sont mieux placés que quiconque. Ce qu'elle disait de l'environnement, c'est aussi vrai pour la santé. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la CCDOM pour consulter ces deux guides qui sont réalisés pour vous et qui sont à votre disposition. Merci.
Merci Pierre. Maintenant, on va appeler Monsieur Dubernet de l'AFD qui va vous faire un exposé sur les financements de l'AFD spécialement sur la santé.
Merci Laetitia. Monsieur le maire du Lorrain, que je ne vois pas. Monsieur le président de la CCDOM, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, merci de m'accueillir parmi vous. Je suis Marc Dubernet, je suis le récent directeur régional pour l'océan Atlantique du groupe Agence française de développement. Je suis basé à Fort-de-France, que j'ai rejoint il y a 2 mois. Et auparavant, j'étais dans l'océan Indien, où j'ai lancé la direction régionale, l'océan Indien, pour le groupe Agence française de développement. L'océan Indien, qui est cher à mon cœur, puisque je suis né à l'île de La Réunion. Et vous comprendrez que je me sens particulièrement bien avec vous, une espèce de communauté fusion culturelle qui me réchauffe toujours le cœur quand je rejoins le congrès de la CCDOM, où j'ai eu le plaisir d'être invité assez régulièrement. Je vais vous parler assez rapidement, parce que la pause café commence à être urgente, très très rapidement, des appuis au secteur de la santé. C'est la diapositive suivante, s'il vous plaît. Des appuis au secteur de la santé de l'AFD en Outre-mer. Alors, ici, vous avez un certain nombre de principes qui guident notre action, mais je pense que certains d'entre vous les connaissent. Évidemment, nous nous inscrivons dans le cadre de politiques publiques en matière sanitaire, médico-sociale, etc. Ça veut dire que l'AFD ne les invente pas, hein. On s'adapte aux politiques publiques qui sont en place. On adapte notre partenariat aussi, évidemment, au contexte et dans le respect de l'alignement stratégique des tutelles du secteur, hein, des tutelles du secteur sanitaire. Et nous avons par ailleurs un certain nombre d'outils que nous mettons en place, j'y reviendrai évidemment, qui ne sont pas que des financements, qui sont aussi, et je pense que c'est important de le souligner, des appuis en expertise et des appuis en renforcement de capacité des acteurs du secteur. L'AFD, c'est un ADN climat et lien social, donc 100% Accord de Paris et 100% lien social, que nous essayons de traduire le plus possible dans la manière dont nous construisons nos appuis en accompagnement des politiques publiques que vous mettez en œuvre. Et enfin, nous sommes, et c'est une particularité de l'AFD, je suis fier de vous la souligner, puisque c'est un peu mon rôle dans l'océan Atlantique, nous nous occupons aussi de coopération régionale, et beaucoup de coopération régionale sanitaire. J'aurai l'occasion d'y revenir pour que vous le sachiez. Une présence forte sur le secteur de la part de l'Agence française de développement, avec 60 partenaires dans l'ensemble des Outre-mer, 800 millions d'euros d'encours. Alors ce sont des chiffres évidemment qu'il faut rapprocher d'autres chiffres, mais nous sommes le premier financeur en fait des établissements publics de santé, et environ 30% de la dette publique hospitalière est souscrite auprès de l'AFD, dans l'Outre-mer, hein, bien sûr. Alors, un certain nombre d'outils sont proposés, avec d'abord évidemment des offres de financement qui sont, nous l'espérons, le plus possible adaptées au projet, des financements à long terme d'investissement qui généralement sont sur une durée qui va jusqu'à 25 ans, parfois un petit peu plus, et à ce titre-là, donc pour notamment la construction d'établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à ce titre, c'est un flux entre 50 et 100 millions d'euros par an, hein, pour les Outre-mer que l'AFD a le plaisir de mettre en œuvre. Nous intervenons sur ce secteur en taux fixe bonifié, alors plus ou moins bonifié en fonction de l'intensité d'un certain nombre de facteurs dans le projet d'investissement, en particulier s'il y a dans la construction d'un hôpital, s'il y a une place laissée à l'énergie renouvelable et à l'efficacité énergétique, ça permet de bonifier un peu plus les financements. Nous préfinançons aussi, et c'est une activité importante, des subventions de l'État ou de l'Union européenne, et en particulier du FEDER. C'est le cas, c'est un exemple que nous donnons sur le CHU de Martinique, où nous mettons en place des relais de financement finalement de subventions qui sont sur des montants assez importants et qui, je pense, permettent la trésorerie n'est pas forcément disponible, de pouvoir être plus confortable sur le lancement de l'investissement. Nous participons aussi au soutien des finances sociales dans les pays Polynésie et Nouvelle-Calédonie, et en particulier dans le cadre de la crise Covid, où nous sommes intervenus de manière assez importante en 2020. Et enfin, nous pouvons aussi être appelés à consolider des dettes sociales. Ça a été le cas pour celle de Wallis vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Tout ça se fait évidemment en lien avec les agences régionales de santé, avec la direction générale de l'offre de soins, en particulier pour les dossiers du plan Ségur. Nos appuis en Outre-mer, c'est la diapo suivante. Voilà. Non, c'est celle d'avant. Merci. Alors, c'est la suivante, pardon, merci. Nous avons quelques projets donc en offre de soins qu'on peut vous mettre, je dirais, un peu en illustration. Comme vous le voyez, nous sommes aussi intervenants sur des fonctions d'appui conseil et de renforcement de capacité, soit seul, soit en collaboration, c'est souvent le cas, voire en cofinancement avec les ARS, sur des domaines variés comme le pilotage de projets stratégiques. On a un exemple à Mayotte sur le plan de développement des ressources humaines, en matière de santé évidemment. Nous sommes, ça c'est assez classique aussi, en cofinancement d'études, projets, faisabilité, évaluation pour par exemple la construction d'hôpitaux ou d'établissements personnes âgées. Nous pouvons être aussi en appui, c'est-à-dire en financement d'expertise sur les prospectives financières d'un programme d'investissement. Et nous sommes aussi en appui aux côtés des hôpitaux en difficulté, mais aussi aux côtés des besoins de formation du personnel des établissements, là aussi avec des crédits qui peuvent être mobilisés. Merci. Alors, rapidement, à titre d'illustration, quelques projets, évidemment. Je suis conscient d'être devant un panel complet quasiment d'élus ultramarins, donc ça va être difficile. J'aurais pu prendre des exemples dans chacun des territoires, mais ça serait trop long. Donc on a sélectionné quelques exemples, en m'excusant pour les territoires qui ne sont pas cités, de ne pas les avoir retenus, mais nous travaillons chez eux aussi avec beaucoup de plaisir. En Guadeloupe, le soutien à la construction de 3 établissements du domaine médico-social, au Rézé, à Capesterre-Belleau, à Bouillante, sur la commune de François et Saint-Joseph. Dans l'ouest guyanais, nous venons de signer la convention pour la construction du nouvel hôpital de l'ouest guyanais, qui est un point d'investissement extrêmement important. Ce que vous avez entre parenthèses, ce sont les montants de financement de l'AFD. Hein. Nous accompagnons également, mais ça depuis très très longtemps, et nous continuons à le faire, les plans pluriannuels d'investissement du CHUR, du Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion. Nous l'avons fait aussi dans le cadre du nouvel hôpital de l'Ouest de La Réunion, je le cite tout de suite, le CHOR. Nous sommes intervenus dans la construction, pardon, de l'hôpital de Petite Terre à Mayotte. Nous faisons également des appuis sur le CHUM, le Centre Hospitalier de Martinique, sur le centre de Saint-Pierre et Miquelon. Je salue les élus de Miquelon qui sont là, et de Saint-Pierre qui sont là. Nous avons participé au financement du schéma directeur informatique. Et enfin, sur la Réunion, le PSMR, l'hôpital public de santé mentale de La Réunion, bénéficie aussi de financement de l'AFD, tout comme la Guadeloupe, Bouillante, Marie-Galante et Saint-Barthes. Merci. Nos appuis dans les Outre-mer, dans le médico-social cette fois-ci, sont assez nombreux également. Nous pouvons citer l'EHPAD du port de La Réunion, qui est porté par la fondation Père Favron, que nous soutenons. 2 instituts médico-éducatifs et un ESAT à La Réunion également, avec une autre association qui est celle de Frédéric Levavasseur. Plusieurs EHPAD publics et privés sont soutenus en Martinique. 2 EHPAD privés en Guadeloupe, et enfin un IME et un ESAT en Guyane, porté par l'ADAPI. L'approche que nous privilégions est une approche sur mesure, c'est-à-dire que l'AFD n'est pas dans une logique d'offre de financement au sens où le projet doit se plier au contexte de l'offre, ou en tout cas aux modalités de l'offre, mais nous sommes plutôt dans une co-construction d'un financement qui essaie de s'adapter le plus possible aux spécificités du projet porté par la collectivité publique ou privée, selon qu'on s'adresse à un hôpital public ou à une association privée. J'ai cité l'appui conseil, le renforcement de capacité. Ce que je vous ai dit très rapidement, c'est que lorsqu'il y a un mélange, je dirais, entre cette action extrêmement forte pour le lien social que constitue l'intervention sur le secteur de la santé et une approche sensible à l'environnement et au climat, nous sommes évidemment extrêmement enthousiastes à accompagner et conseiller nos porteurs de projets pour que cette approche permette d'avoir les financements les plus adaptés, les moins coûteux que nous pouvons proposer. Nous travaillons évidemment en partenariat avec d'autres bailleurs de fonds, je cite la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, la Banque européenne d'investissement dans un certain nombre de contextes, évidemment pas des départements d'outre-mer, c'est rare sur ce type d'investissement. Et par ailleurs, nous sommes aussi évidemment investis sur tout le volet non financier, j'en ai parlé, formation, appui conseil, etc. On est à la 8, c'est ça. Alors, très rapidement, dans la sphère régionale, que faisons-nous? Nous sommes un des partenaires les plus actifs des réseaux de surveillance épidémiologique dans les trois bassins ultramarins. À La Réunion et dans le bassin océan Indien, le réseau SEGA One Health qui bénéficie des appuis de l'Agence française de développement depuis sa création. Dans l'océan Pacifique, c'est le ROSP, et dans la Caraïbe, c'est la CARFA, avec laquelle nous avons une relation partenariale relativement naissante, mais qui, je pense, est assez prometteuse. Je discute demain par visio avec sa présidente. Coopération décentralisée, là aussi, il y a des choses à faire sur l'action internationale des collectivités. Nous avons en particulier soutenu le réseau des partenariats hospitaliers et qui a été confié à la Fédération hospitalière de France, avec des petits financements, mais assez nombreux, qui permettent d'apporter des appuis sur du soft en matière de, notamment de formation et de mise en réseau, hein, donc de partage de pratiques entre les établissements hospitaliers. Nous soutenons également, historiquement aussi, les plateformes régionales d'intervention de la Croix-Rouge française, ce qu'on appelle les PIR. Donc dans l'océan Atlantique, c'est la PIRAC, dans l'océan Indien, c'est la PIROA, dans l'océan Pacifique, c'est la PIROPS. Et nous sommes très actifs dans ces soutiens qui permettent d'intervenir lorsque surgissent, et c'est malheureusement fréquent dans nos territoires, des catastrophes naturelles ou sanitaires qui peuvent nécessiter la mobilisation du réseau de la Croix-Rouge française. Et enfin, nous sommes très attentifs également, évidemment, aux enjeux et aux priorités de territoires qui sont très confrontés, sous tension, je dirais, notamment en raison d'une immigration de type sanitaire, que sont Mayotte et la Guyane. Voilà, alors j'avais prévu de vous présenter quelques projets emblématiques, mais je pense que ça n'est peut-être pas indispensable. Bon, ma présentation est là, elle vous sera transmise, donc vous pourrez les retrouver. Je préfère m'arrêter là. Et vous laissez éventuellement le temps de nous poser des questions, si cela est prévu avant la pause. Merci pour votre attention.
This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.